feel good. I knew that I would not. So good, so good, I got you.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good, 30 minutes pour profiter des ondes positives de mon invité, 30 minutes pour prendre de l'énergie des autres, pour s'en donner un petit peu, pour avancer, pour voir loin, si je puis me permettre ce vilain jeu de mots, puisqu'effectivement, aujourd'hui c'est Hervé Chenal que je reçois, et il copilote l'Institut Européen de la Vision et du Regard, c'est à Nancy.
So good, so good.
Christophe.
Bienvenue.
Merci.
Bienvenue de Nos-Vosges, puisque c'est là-bas que tu as grandi. C'est exactement là que tout a commencé, comme on dit pour Jeanne d'Arc.
Oui, c'est presque pareil. Mais moi, c'était Mirecourt.
Mirecourt, alors ?
Mirecourt, bah, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai passé mon adolescence, jusqu'à venir faire des études médicales à Nancy.
Et c'est là qu'il y a eu, c'est la première date importante dans ta vie, ce point de détection qui a influencé toute ta vie.
Oui, c'est pas à Mirecourt même, mais c'est à Épinal où effectivement, en 1979, j'ai eu la révélation, dépistage somme toute assez classique, scolaire, d'un petit défaut de vision, et passage chez l'ophtalmo à Épinal, et là c'était pour moi la découverte, la révélation, et je me souviens très bien avoir dit à maman, sortant du cabinet, « Waouh, c'est ça que je veux faire quand je serai grand ». C'était un cabinet moderne, un type sympa, que j'ai remplacé bien plus tard après, d'ailleurs.
Ouais, ouais.
Et j'ai trouvé que voilà, il y a quelque chose, il y a un truc qui est passé. Alors, c'était pas fait dès le début, hein, ça c'était le tout début de l'histoire. Mais je me suis très vite renseigné, beaucoup de lectures, et les études ont été effectivement orientées dès ce moment-là pour essayer d'arriver à ce but. Ouais.
Tu avais quel âge? Tu avais,
j'avais 7 ans.
7 ans, 7
ouais,
ans
ouais,
et là...
Ouais. Ah oui, j'ai été assez vite déterminé.
Mais c'est, c'était...
Ah, mais quand j'ai une idée en plus en tête, en général, c'est, je vais au bout, ça c'est...
Et donc, dès qu'on t'a demandé en 6e, qu'est-ce que vous voulez faire?
Ah ouais, je savais déjà, ouais. Mais je savais déjà quel cursus, j'avais déjà peaufiné tout ça, ouais.
Donc ça,
mais ce fut quand même, ce fut pas un long fleuve tranquille pour arriver jusqu'à ça.
Et alors pourquoi?
Parce pourquoi? Alors pas sur les premières étapes, parce que je pense que voilà, la scolarité était bonne, un très bon élève. À la fin du deuxième. Du cursus médical, mais à la fin du deuxième cycle, là où on passe le concours de l'internat, où pour moi c'était un peu plus compliqué, parce que comme j'avais une seule truc qui m'intéressait, et surtout faire l'internat ici à Nancy, parce que c'était une bonne école d'oculoplastie, c'est ça que je voulais faire, j'étais pas suffisamment bien classé au concours de l'internat, qui était un vrai concours classant à l'époque, pour pouvoir attraper ce poste-là. Je me souviens très bien avoir rempli toute une fiche récapitulative de tous nos vœux. C'était à l'ancienne, il fallait cocher des trucs genre QCM. On avait plusieurs dizaines de choix possibles. Moi, j'ai fait qu'un seul choix. Mais je savais que mon classement, probablement, ne me le permettait pas. C'est pour ça que j'ai embrayé sur le cursus de médecine générale. J'ai fait le troisième cycle de médecine générale. J'ai même remplacé en médecine générale avant de repasser l'internat de spécialité pour cette fois le décrocher et pouvoir entrer en chirurgie et en ophtalmo.
C'est intéressant ce que tu nous racontes parce que le I feel good et le principe de l'émission, c'est pas de se dire que la vie est forcément toute rose et que c'est pas parce que à 7 ans tu savais ce que tu voulais faire et qu'au final tu l'as fait,
ouais,
que c'était une ligne droite.
Ah non, ça n'a pas été qu'une ligne toute droite. Et la période justement a été assez trouble et complexe, et ce passage-là entre la fin du troisième cycle de médecine générale et le concours, le deuxième concours de l'internat, parce que ça...
T'avais dit quoi, 25 ans, c'est ça, à peu près?
Ouais, c'était en 96 le premier, 98 le deuxième, quoi, ouais. Mm-hmm. 26 ans.
Donc après 20 ans d'orientation déterminée,
ça aurait pu s'arrêter du jour au lendemain. Ouais. Et c'était assez difficile à vivre, d'ailleurs, parce que ça correspondait à une période où le centre qui gérait l'internat a déménagé. et que les études médicales ont été rallongées d'un semestre et que donc il fallait qu'il y ait une modification du règlement pour qu'on ait le droit, alors on n'était pas beaucoup je pense hein, dans ce cas-là, de pouvoir concourir réellement. Et je me souviens aussi très bien que le jour du concours, le chef de bureau a dit « Bon, ben, je sais qu'il y a quelques étudiants qui sont concernés, c'était mon cas, vous n'avez pas complètement fini votre cursus de médecine générale parce qu'on vous a rajouté un semestre, c'est le ministère qui avait décidé, et que, ben, comme on ne peut pas faire un concours d'internat décalé de 6 mois juste pour vous, on vous laisse le droit de concourir à celui-ci, mais pour l'instant, on n'a pas l'assurance que vous serez classé et que vous pourrez prendre des postes. » Ce qui est tout à fait rassurant juste avant de composer.
Oui, c'est ça, ça met à l'aise et tout, c'est... Voilà.
Mais finalement, tout a plutôt bien tourné, ouais.
Donc, de Mirecourt, on arrive vite à Nancy, alors
Ah bah, de Mirecourt, on arrive vite à Nancy pour commencer les études de médecine, ouais. Ouais, c'était le parcours tracé, je pense. Hein. C'était quand même plus simple. En plus, on avait des contacts, il y avait des amis, d'autres étudiants de Mirecourt ou des environs, covoituraient. Ça existait déjà, le covoiturage. Hein. Et donc, ça paraissait logique. Ouais. Mmh.
Des belles années à Nancy. Et on reste à Nancy. Tu as fait le choix de rester à Nancy ?
J'ai fait le choix de rester à Nancy, à la fois pour la poursuite des études, parce que, comme je le disais, c'était vraiment une école d'oculoplastie. Et c'était vraiment ce que je voulais faire.
Ça l'est toujours aujourd'hui ?
Ça l'est beaucoup moins, parce que malheureusement, le corps professoral qui faisait cette école d'oculoplastie est parti en retraite, et il y a beaucoup moins de formation. Mais ça l'a été pendant 30 ans, ouais.
Ça veut dire qu'il y a un défi sur... On s'intéresse toujours aussi un petit peu à l'écosystème local, voir un petit peu comment il vit l'écosystème local.
Bah, c'est-à-dire que il y a une vraie problématique, je pense, oui, de formation médicale au sens très large et aussi dans certaines surspécialités en ophtalmo. Et je pense que l'oculoplastie est un problème, mais de façon globale française. Il y a de moins en moins d'écoles, il y a de moins en moins de lieux où on peut vraiment apprendre ce métier spécifique. Et même dans les maquettes de formation, ça bascule plus sur la partie de chirurgie plastique que sur la partie ophtalmologie. Mais l'appréhension,
pour
la
bien
vision...
Faire la différence, ça veut dire quoi
C'est-à-dire que jusque maintenant, il fallait absolument faire de l'ophtalmo pour avoir la qualification en oculoplastie avec quelques diplômes complémentaires. Et aujourd'hui, en passant par une maquette de chirurgie plastique, on peut aussi y arriver.
Donc moins de connaissances de l'œil.
Avec beaucoup moins de connaissances de l'œil et tout cet écosystème aussi oculaire qui est tout à fait particulier. Donc la vision est assez différente entre l'appréhension des problématiques pour un plasticien et un ophtalmo.
Si on reste un tout petit peu sur la vision aujourd'hui, est-ce que, si les techniques évoluent, est-ce que les maladies évoluent de l'œil, de la vision ?
Ça, c'est une bonne question. Je pense que les maladies, en tout cas... Il y a une maladie qui crée beaucoup de soucis et qui risque d'en créer de plus en plus, c'est la myopie. Parce que ça reste quand même probablement un fléau avec ces myopies qui évoluent beaucoup. Alors, c'est extrêmement le cas en Asie, ça l'est un peu moins en Europe. Mais ça, c'est un vrai, vrai enjeu de santé publique.
Alors, l'origine des causes ?
L'origine des causes, c'est ce travail sur réfraction en permanence, sur les écrans, les sursollicitations de vision de près qui empêchent l'œil en fait, de se reposer de façon plus naturelle et qui favorise le développement des myopies. Après, il y a toutes les maladies qu'on connaît, mais je peux pas dire qu'il y ait de maladies qui sortent régulièrement, ou alors des moutons à 5 pattes, des choses qui sont un peu exceptionnelles. Mais
des nouvelles justement, des exceptionnelles, non, on n'a pas forcément.
Si, il y a toujours des maladies exceptionnelles, mais il y a quand même des grandes catégories de maladies, que ce soit des problèmes de rétine, de macula, hein, qui sont vraiment aussi là une cause très importante de consultation, mais qui sont loin de mon domaine.
Et aujourd'hui, ça veut dire qu'on soigne mieux aussi ?
Alors, on soigne beaucoup mieux, on diagnostique beaucoup mieux, on soigne beaucoup mieux, on ne guérit pas toujours parce qu'il reste quand même beaucoup de maladies malheureusement dont on ne connaît pas encore tous les ressorts, tous les tenants, les aboutissants et toute la physiopathologie qui permettrait de les guérir, mais on les traite beaucoup mieux, ouais, ouais, ça c'est sûr.
La déficience visuelle, c'est un handicap.
C'est un vrai, vrai handicap, ouais. Ouais, ça c'est sûr.
Parce que tu évoquais même un tout petit peu que ça pouvait conduire jusqu'à la déprime.
Oui, ça peut, hein, ça peut, évidemment. Alors, on le voit aussi que ça peut conduire ces problèmes visuels, et on l'a très bien vu sur les Jeux paralympiques, à créer une vraie émulation, une vraie stimulation, hein, et ça, c'est extrêmement important. Le cécifoot, voilà, hein, ça, ça reste quand même des images, je pense, qui permettront aussi aux gens qui ont des vrais problèmes de se dire, bah oui, mais c'est pas parce qu'on perd un peu de vision, c'est pas parce que on commence à avoir ces déficits-là que la vie est terminée.
Alors oui,
je sais pas si tu sais, mais Ray Charles disait, quand on l'interviewait, quand on lui demandait, mais quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée dans la vie, et ben il disait, c'est de devenir aveugle. Parce que ça a changé toute ma vie. Alors que probablement, j'aurais fini dans un gang, voilà, et je pense que ma vie aurait été comme ça. Et là, le fait de devenir aveugle, ça m'a permis de connaître la musique et puis tout ce qui s'en est suivi, quoi.
Mais avant de savourer la captation d'attention que ça peut générer sur d'autres sens, c'est la perte, et dans mon entourage, plusieurs personnes comme ça, la perte de ce sens-là est une...
Je pense que si on interviewe les gens comme ça dans la rue, je pense que c'est ce qu'ils préféreraient ne jamais perdre. Ouais. Mmh.
Du coup, ça veut dire que une dimension psychologique du métier me semble
indispensable.
Hein. Ouais. Et puis je suis désolé, mais alors il y a la vision et il y a le regard aussi. Regarde les gens.
Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de difficultés sur ces appréhensions-là.
Ouais. Lesquelles alors lesquelles difficultés? Qu'est-ce que tu, dans ton expertise, quels sont les signaux que te renvoient les gens de ce besoin de soins par rapport à eux-mêmes et à eux dans la société?
Bah c'est ça, c'est que souvent, c'est même le prisme de leur regard à eux qui font qu'ils s'imaginent avoir tel ou tel problème ou que ce problème-là est vraiment embêtant chez eux. Et parfois, il y a tout un travail psychologique, plutôt que de dire oui, on va vous opérer de ci, on va vous faire ça, trop vite, de comprendre un peu plus les ressorts qui amènent à faire que ce problème-là a surgi.
De cette vocation, on peut employer ce terme-là, en 1979, tu avais 7 ans, aux examens qui n'ont pas été une ligne toute droite. Voilà, il y a eu ensuite des actes fondateurs, fondateurs de création, d'économie en général. On en reparle juste après ton choix musical. Explication du choix musical?
Alors le choix musical, c'est un petit clin d'œil à quelques amis qui connaissent mon goût plutôt immodéré pour les boîtes de nuit, mais plutôt des boîtes de nuit comme celles que nous décrit Charles Aznavour.
Dans le bruit familier de la boîte à la mode, aux lueurs psychédéliques, aux curieux décors, découvrons assis sur des chaises incommodes les derniers disques pop poussés au maximum. C'est là qu'on s'est connus parmi ceux de notre âge, toi vêtu en indienne et moi en col mao. Nous revenons depuis comme en pèlerinage, danser dans la fumée, à couper au couteau. Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés. Ton cœur contre mon cœur, malgré les rythmes fous, je veux sentir mon corps par ton corps épousé. Dansons, joue contre joue. Dansons, joue contre joue. bien noyé dans la cohue, mais dissocié du bruit. Comme si sur la terre il n'y avait que nous, glissons les yeux mi-clos jusqu'au bout de la nuit. Dansons jour contre jour, dansons jour contre jour.
Non, mais qu'est-ce qui se passe? Les liaisons démodées.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Hervé, pour autant la musique?
Ah oui, la musique, ça une grande part de ma vie. Ouais, j'ai eu la chance de voir plusieurs reprises, nombreuses reprises même, Charles Aznavour, en concert ici à Paris. Enfin, et voilà, on aime beaucoup, beaucoup la musique dans la famille. Ça, c'est évident, ouais.
Alors,
j'écoute même de la musique presque tous les jours.
Ouais, ouais. Ouais. J'évoquais avec toi le au moment où on se quittait le parcours de soignant qui est le tien, et puis en même temps le parcours entrepreneurial.
Ouais, 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 parce que les deux se sont croisés très vite, et je pense qu'effectivement ils sont entrelacés dans tout ce qui s'est passé depuis la fin des études. L'un va pas sans l'autre. Hein, ça c'est sûr. Ouais.
De cette saison, en un an, on va dire, en un an, tu es le deuxième personnage que j'interview, justement, cette carrière révolue pour le soin, enfin vraiment le choix depuis toujours du soin, mais de l'entrepreneuriat. L'autre personne, c'était Gilles Karcher aussi.
Ouais. Voilà.
Vous avez cette appétence pour dire, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et quand je dis appétence, c'est parce que l'un se nourrit de l'autre.
Oui, bien sûr. Je pense qu'effectivement, je ne suis pas le seul là-dessus, mais peut-être d'ailleurs c'est quelque chose qui se perd un peu sur cette notion-là de liberté et d'intrication qu'on peut avoir entre bien faire son métier de soignant avec tous les aspects qu'on a un peu décrits tout à l'heure, mais tout en gardant quand même une certaine forme de liberté dans la pratique qu'on peut en avoir, surtout pour continuer à améliorer la qualité de prise en charge de nos patients.
Alors, on va y arriver, parce que très concrètement, ça fait partie de ta deuxième date importante dans ta vie. C'est une installation et c'est la création d'un institut. C'est en 2005.
C'était en 2005, quelques mois après avoir rencontré le docteur Haché, où tout de suite, ça a vraiment matché entre nous. On s'est rendu compte, un, qu'on avait la même vision, justement, de la prise en charge des patients et de la façon dont les choses pouvaient s'articuler. Et qu'en même temps, on avait deux spécialités qui s'articulait très bien aussi l'une avec l'autre. C'est lui qui s'occupe de la vision, c'est moi qui m'occupe du regard, et on a vraiment deux spécialités qui vont bien ensemble. Et puis, il y avait aussi entre ces deux spécialités un petit monde entre les deux, une interface, si je pourrais dire, entre nos deux domaines, qui était la surface de l'œil. Et très rapidement, on s'est rendu compte aussi que dans ces histoires de surface oculaire, il y avait une grosse demande et une grosse problématique qui continue à croître de plus en plus, qui est le problème de la sécheresse oculaire, qui est probablement le premier motif de consultation en ophtalmologie en France. Et on a donc été un des premiers, on va dire, je pense, à véritablement mettre en place une consultation spécifique de sécheresse oculaire avec du matériel spécifiquement dédié à la prise en charge, que ce soit diagnostique et thérapeutique.
Donc ça, c'est le fruit de cette installation en 2005. Vous étiez tous les deux ?
On était tous les deux, ouais. Ouais, on était tous les deux, et je ne sais pas si on peut finir tout de suite à la troisième date.
Vas-y, parce qu'elle est tellement associée.
Elle est totalement liée. Et donc, voilà, c'est sur ce principe-là, cette année, en 2024, j'ai donc créé l'Institut européen de l'œil sec. Véritablement une entité spécifiquement dédiée sur la prise en charge de ces patients.
Donc, par contre, on revient à 2005 et on va voir que 2024, c'est aussi le croisement de plusieurs événements, de plusieurs vies, qui convergent, en fait. Mais donc, 2005, la rencontre avec le professeur Haché, s'associer, avec le docteur Archer, s'associer, c'est quand même aussi un pari.
C'est un pari, oui, effectivement, c'est un réel pari. Mais quand on a les mêmes visions, ça paraissait pas un pari fou. Alors, on a une vraie différence d'âge, hein, on a une génération de différence entre lui et moi. Donc, lui était déjà extrêmement bien installé, très très renommé.
Et toi, le petit jeune ?
Et moi, j'étais le petit jeune oculoplasticien, mais qui venait justement avec cette vision qu'on partageait, compléter, je pense, assez bien le cabinet. La preuve en est, c'est qu'on continue encore ensemble maintenant et encore pour longtemps, j'espère.
Et donc, c'est vraiment cette association, c'est d'abord et avant tout une complémentarité. Outre le fait qu'il y avait une même vision du soin et de l'accompagnement.
Oui, c'est
patients.
Une complémentarité, ouais. Ouais, hein. Clairement, parce que même dans les activités, on va dire, de gestion du cabinet, il y a une réelle complémentarité aussi entre nous deux. Ouais.
Donc, installation, cours Léopold, on arrive au Medipôle à Maxéville.
Oui, quasiment 10 ans après, 2014, ça fait 10 ans. Là.
Et on en arrive à la troisième date importante dans ta vie que tu as dévoilée, bien évidemment, parce qu'elle est tellement en lien avec cet enfant qui a grandi quelque part.
Bah, j'espère, mais pas trop, je pense.
Pourquoi ?
Bah, parce qu'il reste toujours des rêves.
Donc il y a la place pour une
toujours
quatrième
des rêves,
date
toujours des projets. Ouais. Il y aura sûrement, j'espère même plus que beaucoup plus de qu'une quatrième date importante.
Et donc sur cette année 2024, c'est bien sûr la création de cette spécialité supplémentaire sur la sécheresse oculaire, mais c'est aussi d'autres rencontres.
Sont d'autres rencontres, effectivement. Pour rester, mais là on va presque aller plus sur la partie, on va dire, un peu business, entrepreneuriat presque pur. C'est effectivement la rencontre de plein de passionnés, de gens et d'un peu fous aussi, parce que on s'est retrouvés à 27 ou 28 à faire un exécutif MBA à l'ICN pendant 2 ans. Et la fin de l'histoire, c'était la diplomation en 2024. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil aujourd'hui à mon ami Romu, dont c'est l'anniversaire.
Alors, un executive MBA, qu'est-ce qui t'a pris, Hervé, de partir dans cette aventure-là, alors que tu es quand même bien installé
Ouais, mais justement, je pense que, il y avait un petit peu de défi aussi dans cette histoire-là. Et puis, il y avait aussi la notion que, bah, il manquait quelques briques pour pouvoir mener à bien certains projets. Et pour le cabinet et pour l'autre activité qui est mon activité que j'ai continué à développer, qui est de Business Angels. Et je pense que voilà, ça, ce sont des choses où bah, y a de l'apprentissage sur le métier, sur le terrain, mais il n'y avait jamais eu d'apprentissage proprement spécifique, parce que dans les études médicales, savoir gérer les gestions de cabinet, tout ça, en tout cas, c'est...
C'est ce que nous
disait
Gilles
aussi. Enseigné.
Ça vous manque quand même un peu.
C'est un vrai, vrai, vrai problème. Donc, non, je pensais que c'était intéressant et que le moment était venu, justement, de faire ça pour avoir une vraie vision, en sachant aussi que l'écosystème médical évolue énormément. Hein, le volet de la financiarisation de la médecine, c'est évident. Hein, et que ça me paraissait être le bon moment pour aller plus loin dans ces domaines-là. Et puis en même temps, ça sert aussi à cette activité de Business Angel, ça sert aussi à mon activité que j'ai au sein d'ADER Investissement, pour lequel j'étais actionnaire depuis un certain temps et où j'ai eu le privilège d'être nommé au conseil d'administration cette année aussi.
Donc ce ADER Investissement, en deux mots
ADER Investissement, c'est un fonds d'investissement privé qui a... la vision que je partage aussi de développer le tissu économique et industriel local et régional en pensant, et je suis tout à fait raccord là-dessus, c'est que toute cette activité-là va inévitablement rejaillir sur tout le reste de l'écosystème.
Mais alors,
et donc inévitablement aussi sur l'écosystème médical, hein, ça c'est une évidence.
D'autant plus à Nancy où l'écosystème médical est extrêmement important.
Enfin, bien sûr, clairement.
Mais on pourrait avoir une image un peu négative de ce qui est ce fonds d'investissement ADER. C'est vraiment un exemple justement de on investit pour l'économie, tu l'as dit,
Ah oui,
c'est local,
c'est
territorial,
purement c'est local, territorial.
Pas beaucoup au-delà, quoi. Enfin, c'est 30, 40, 50 kilomètres.
Ouais, c'est la grande région. C'est la grande région.
Maxi.
Ouais. Oui, Maxi.
Et donc, on investit dans de l'écosystème local, tout secteur.
À peu près, mais le but, c'est quand même essentiellement la partie industrielle. Consolidation industrielle, qui est quand même un une vraie perte pour toute la région, alors qu'il reste encore, je pense, des vraies pépites et des secteurs d'activité qui mériteraient de continuer à se développer. Ouais.
L'économie en général, comme ça en fait peut-être pas une passion, mais un intérêt
Non, réellement, oui, bien sûr, c'est évident. Hein. On vit dans l'économie. Donc c'est important d'avoir tous ces critères en tête et les connaissances suffisantes pour pouvoir bien se débrouiller.
Donc on le voit, 2024, c'est un peu l'aboutissement d'un parcours MBA avec l'ICN.
Ouais.
C'est le lancement d'un nouvel institut de l'œil.
Ouais.
C'est l'entrée au sein du bureau du conseil d'administration de l'ADERS. Ça veut dire une stratégie un peu de déploiement à la cinquantaine venue.
Bah, déploiement, non, peut-être pas, mais c'est effectivement faire les choses qui me tiennent vraiment à cœur. Je pense que c'est assez évident, mais il reste plein d'autres choses, il reste plein d'autres projets, plein d'autres
trucs.
Alors,
c'est ma question, justement. les prochaines étapes d'Hervé, les prochains rêves
Les prochains rêves, alors ce serait, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place avec un ou deux autres amis, c'est un club de dégustation de whisky.
Ouais.
Peut-être plus ou moins en rapport avec un petit café littéraire là-dessus, et peut-être que il faut que j'en reparle sérieusement à l'ISCO, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'important à faire là-dessus.
Pourquoi ?
Bah parce que...
Il y a les plaisirs de la vie,
eh ouais.
Et il y a la culture de la vie.
Et la culture, l'un va passant l'autre. Hein, et il ne faut pas voir aussi au-delà de la volonté d'apprentissage que j'ai depuis le début, c'est quand même une soif d'apprendre. Ça, c'est, voilà, moi, je n'aime pas faire des choses dont je ne comprends pas bien, donc ça me paraît indispensable. Mais ça oblige effectivement à une forte implication et ça oblige parfois à retourner sur les bancs de l'école pour bien comprendre ce qui se passe, si on est capable de le faire.
Alors justement, parce que du coup, c'est d'avoir accepté de retourner sur les bancs de l'école.
Oui. Alors, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, parce que je dirais que l'activité médicale telle que moi je la pratique et je l'envisage sont régulièrement des colloques, des conférences auxquelles soit je participe activement en termes de présentation, soit auxquelles j'assiste pour apprendre aussi. Donc il y a toujours de l'échange et l'activité médicale, je pense que si on veut la faire correctement, c'est de l'apprentissage en permanence.
En gros, si j'ai bien compris, tu n'as pas fini d'apprendre.
Non, jamais, on n'a jamais fini d'apprendre.
Merci de t'être arrêté, Hervé, dans I Feel Good. Belle continuation et
merci
bel
beaucoup.
Apprentissage.
Merci.